BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et on se retrouve pour une nouvelle session de BFM Patrimoine. On ouvre les portes de l'émission pour 2 heures d'expertise du monde de vos placements. Et bien évidemment, on file tout de suite sur le marché. Antoine Larigauderie, du rouge foncé pour ne pas dire plus.
Voilà, du rouge bien vif, effectivement, pour commencer cette semaine. Alors, c'est vrai qu'on avait terminé la semaine précédente sur un petit rebond technique. On s'était dit, après 6 jours de baisse consécutive, le CAC 40 réagit enfin. Peine perdue. Là, on efface tous les gains de vendredi, quasiment. On retourne à 6029 points avec une sérieuse option maintenant sur un test du côté des 6000 ou un tout petit peu plus. On a fait un plus bas à 6009 la semaine dernière qu'il faudra retenir. Mais en avant-marché, on avait même des signaux qui nous donnaient un CAC 40 sous les 6000. Donc d'ores et déjà, on a les objectifs qui sont déjà dans le scope des investisseurs. Moins 2,6% pour le DAX, pour l'Eurostock 50. En revanche, pour le DAX, c'est sévère, moins 3,16%. Alors en fait, cette très forte baisse, elle a une triple origine. Déjà, des inquiétudes de fond sur l'énergie en Europe. On attend que les hautes autorités européennes, c'était vraiment le son de cloche ce matin, réagissent avec un plan d'action pour tenter de maîtriser cette hausse absolument effrénée des coûts de l'électricité et du gaz. On a vu les cours bondir de 30% sur le gaz ce matin, sur certaines lignes de produits financiers. On a un pétrole qui reste, allez, on va dire relativement sage, mais qui grimpe à nouveau en direction des 100 dollars. On est à 95,25 là à l'instant, 88,79 pour le baril de brut léger américain. Donc on attend que l'Europe réagisse avec la coupure du gaz russe de Gazprom dans les pipelines Nord Stream. Ça pose un vrai sérieux problème. Alors peut-être des mesures de soutien aux entreprises qui ont besoin de s'alimenter en énergie, coûte que coûte, peut-être des limitations sur l'usage de certains produits financiers qui ne font qu'accentuer cette impression de fuite en avant, peut-être un meilleur contrôle des prix. En tout cas, tout ça reste à l'étude. Parallèlement, on a un deuxième gros sujet, c'est quand même la réunion de l'OPEP aujourd'hui à Vienne. Et on a vu que du côté des grandes voies que constitue l'Arabie Saoudite et d'autres, on restait plutôt dans l'optique d'une réduction de la production pour faire remonter les cours du pétrole du côté des 100 dollars, d'un air de dire, les banques centrales ont relevé leurs taux pour maîtriser l'inflation, quitte à provoquer une récession. Nous, le bon prix du pétrole, il est autour des 100, il n'y a pas de raison qu'on poursuive pas en avant notre programme et éventuellement réduire notre production. Le troisième sujet, il est tout aussi important, c'est le dollar qui signe des plus hauts de 20 ans face à toute autre monnaie. On a vu l'euro d'ailleurs passer sous 0,99 un petit peu plus tôt ce matin. On est péniblement au-dessus à 0,9909. Bref, un triple problème qui se pose là en ce moment sur les marchés. Donc forte baisse du CAC 40 des marchés européens signe. La seule hausse significative pour l'instant, c'est quand même celle de Total Energy qui grimpe 9,3% à 52,23€, et de manière générale du secteur de l'énergie, puisque Vallourec gagne 3,3% à 10,78€, plus forte hausse du SBF 120. On a CGG aussi, plus 0,58% à 97 centimes. Tiens, puis on a Thales, valeur défensive par excellence, qui prend 1,6% à 122,10€. Sinon à la baisse, des valeurs cycliques, industrielles, Saint-Gobain moins 4,12€, 39,29€, Renault moins 4,05 à 28,18. On a Alstom aussi, moins 3,88 à 20,05. C'est particulièrement le secteur automobile qui est touché, puisque Valeo signe une baisse de 8,4% sur le SBF 120, plus forte baisse à 17,67. Et Forcia suit, moins 6,77 à 13,51. Donc un début de séance très difficile pour le CAC 40 qui revient quasiment sur ses plus bas de juillet et quasiment sur les plus bas de la semaine dernière. 6026 points, on est en repli de 2,29%. L'euro 0,9910 face au dollar.
Antoine Larigauderie, que l'on retrouve chaque matin à l'entame de l'émission pour prendre le pouls de cette première heure de cotation. Et nous, tout de suite, on parcourt l'info éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, l'euro recule encore face au dollar. La monnaie unique s'éloigne encore un peu plus de la parité, jusqu'à 0,9884 dollars ce matin. Un plus bas depuis 20 ans. En cause notamment l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 annoncé vendredi par Gazprom. Frédéric Oudéa a présenté comme président, proposé comme président non exécutif du conseil d'administration de Sanofi. Le directeur général de Société Générale doit quitter ses fonctions fonction en mai 2023. Il remplacerait Serge Wimbert, dont le mandat sera arrivé à échéance. TF1 envisage de porter plainte contre Canal+. Vendredi, la filiale de Vivendi a coupé la diffusion des chaînes du groupe TF1 en raison des exigences commerciales jugées trop élevées. TF1 qui a deux jours pour convaincre sur sa fusion avec M6. L'autorité de la concurrence auditionne aujourd'hui et demain l'ensemble des parties prenantes. Sa décision est attendue dans la foulée. Cet été, l'autorité avait remis un rapport défavorable au mariage à cause de la position dominante du nouvel ensemble sur le marché de la publicité. En France, CMA-CGM veut accélérer dans la transition énergétique. L'armateur crée un fonds vert doté d'1,5 milliard d'euros sur 5 ans pour décarboner ses activités. Objectif, faire émerger des unités de production de fioul alternatif à l'échelle industrielle. Le groupe a engrangé un bénéfice net record de près de 15 milliards d'euros au premier semestre. ArcelorMittal met à l'arrêt 2 hauts fourneaux en Allemagne et en Espagne. C'est pour faire face à la baisse de la demande et la flambée des prix de l'énergie. En France, le sidérurgiste va ralentir sa production à Dunkerque. Et puis, on connaîtra aujourd'hui le nom du nouveau Premier ministre britannique. C'est Liz Truss, actuelle ministre des Affaires étrangères, qui fait figure de favorite pour succéder à Boris Johnson face au ministre des Finances Rishi Sunak. Les adhérents du Parti conservateur avaient jusqu'à vendredi pour voter. L'annonce est prévue aujourd'hui à 12h30, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie, on se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre les développements de l'actuel éco et nous tout de suite on s'intéresse à vos placements.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Harry Vollendler est en ligne avec nous depuis Mescart Hamilton AM. Bonjour Harry.
Oui, bonjour.
Et vous nous proposez ce matin un coup d'œil sur Hopscotch.
Oui, tout à fait. C'est un spécialiste de la communication non publicitaire, présent notamment dans l'événementiel et dans les relations publiques, et également via sa filiale Sopexa dans le marketing agricole. Alors, c'est une société qui dispose de 760 collaborateurs environ, et présent sur 5 continents à travers de 34 bureaux. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Hopscotch? Tout d'abord, la dernière publication a été vraiment très au-dessus des attentes de la communauté financière. Et d'ailleurs, ça a été suivi par une hausse très forte de l'action. Donc, le chiffre d'affaires du premier semestre est ressorti en hausse de 47,5% à 108,8 millions d'euros, avec une marge brute en progression encore plus forte, 92,9%. Alors, comment s'explique cette forte progression de son activité? Il y a tout d'abord eu les nombreuses manifestations liées à la présidence française de l'Union européenne et puis la filiale du groupe Sopexa dédiée au marketing de produits agricoles français à travers le monde a enregistré quant à elle une augmentation de sa marge brute de 21,3% grâce à des campagnes réalisées pour le compte de la Commission européenne à Dubaï et en Asie du Sud-Est. Alors, un autre élément qui est très positif, c'est la trésorerie nette positive dont dispose Hopscotch. Cette solidité financière lui a permis de procéder à des opérations de croissance externe, notamment pour se diversifier dans le sport, compte tenu des opérations extrêmement importantes à venir, notamment la Coupe du Monde du football, du rugby et des JO naturellement de Paris en 2024. Donc le groupe se diversifie également dans le sport à travers l'acquisition de 3 sociétés qui réalisent en cumulé à peu près 10 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est un groupe qui est déjà très présent dans le luxe, la banque assurance et le divertissement, et qui va se diversifier davantage vers le sport. Alors, en dépit d'un parcours boursier époustouflant, surtout dans un marché baissier, donc on est en progression de plus de 90% depuis le début de l'année, mais la valorisation reste toujours extrêmement modérée, parce que la communauté financière commence uniquement à découvrir cette valeur. Donc, le ratio PER estimé pour l'année en cours ne se lève uniquement à 7,5 Donc, ce qui est extrêmement bas pour une société qui devrait, grâce à sa solidité financière, continuer à procéder à des opérations de croissance externe.
Voilà quelques explications proposées ce matin, et notamment ce focus apporté sur la très forte progression récente du titre, enfin quand je dis récente, sur ces quelques mois, mais qui effectivement commence à être prise en compte par la communauté financière. Juste une petite question, enfin question et information que les auditeurs qui nous écoutent doivent avoir en tête, c'est la faible, entre guillemets, liquidité de ce titre. C'est une petite valeur.
Tout à fait. Donc, c'est une small cap, donc je dirais même une micro cap. Donc, bien évidemment, ce type de valeurs ont tout à fait leur place dans un portefeuille, mais de façon très modérée, ou alors à travers des fonds. D'ailleurs, notre fonds Hamilton Small Cap, pour l'information de vos auditeurs et actionnaires de cette action.
Eh bien, voilà donc l'éclairage proposé ce matin. Du coup, qu'est-ce que ça donne pour vous en objectif de cours, recommandation?
Alors, on a un objectif de cours prudent de 18 euros sur Hopscotch, compte tenu de la nervosité des marchés actuels.
Merci beaucoup, Harry Vollendler. Hopscotch, donc, mis en lumière ce matin. Le cours est à 15,15 euros. Ce matin, objectif de cours, donc 18 euros. Le marché, lui, en difficulté, menace les 6000 points. On verra ce qu'en disent nos traders. Ce sera d'ici une vingtaine de minutes. Le CAC perd 2,35% à 6022 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
La macroéconomie et Bruno Cavalier qui est en ligne avec nous. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bon, on voit que le début de semaine est difficile pour les marchés, hein, le CAC l'illustre parfaitement. Sur fond, il faut dire, de crise énergétique. Alors comment l'économiste que vous êtes lit finalement cette période particulière sur le front de l'énergie?
Bah, disons que ça alourdit très fortement les factures énergétiques des ménages et des entreprises. On n'est pas encore arrivé à la période hivernale, donc il y a une ponction sur le revenu réel et par voie de conséquence une pression très forte à la baisse de l'activité ou des dépenses. Donc c'est vraiment aujourd'hui le facteur principal qui est en train de pousser l'économie européenne en récession. Je crois qu'elle n'était pas encore en récession au premier semestre de cette année, si on fait la moyenne. Enfin, si on prend l'Allemagne, ils étaient tout juste à plat. Et on est rentré dans le deuxième semestre, avec une crise de l'énergie qui s'est encore intensifiée. Les dernières illustrations en date qu'on a de cet affaiblissement de l'économie, ben ce sont les enquêtes qui viennent de tomber ce matin sur le climat des affaires, sur la confiance des directeurs d'achat. Bon voilà, maintenant on est vraiment entré dans un territoire récessif. Alors on sait qu'il y aura une réunion extraordinaire des ministres de l'énergie à la fin de cette semaine pour essayer d'apporter un soulagement. Tout à fait bienvenu, mais malgré tout, voilà, on a un choc d'inflation, un choc sur le pouvoir d'achat qui est tel que aujourd'hui, je pense, la dynamique est inéluctable. On va en récession. La question est de savoir si elle sera sévère, longue ou au contraire courte et avec une reprise rapide.
Et c'est dans ce contexte-là que se réunit notre Banque Centrale Européenne. Alors, on sait qu'elle remontera ses taux. On commence à se douter que ça pourrait aller jusqu'à 75 points de base. Quelle est votre lecture, Bruno?
Ce que je retiens de la Banque Centrale Européenne, c'est à quel point, au cours des derniers mois, elle a changer son cadre analytique, ce qu'on appelle parfois dans notre jargon d'économiste sa fonction de réaction. En gros, une banque centrale, on lui donne des objectifs et on lui laisse toute latitude pour utiliser les instruments qui sont à sa disposition pour satisfaire ses objectifs. Et il était d'usage pour une banque centrale et pour la banque centrale européenne en particulier, que si l'économie était soumise à un choc d'offre qui pouvait évidemment faire monter les prix, bah, on ne réagissait pas, parce qu'un choc d'offre, on sait très bien que la politique monétaire a peu de prise par rapport à ça. Et il était d'usage aussi que en phase de resserrement de la politique monétaire, on menait plutôt une politique de petits pas, le gradualisme, comme on dit. Or là, la Banque Centrale aujourd'hui fait exactement le contraire. Et elle fait le contraire en rationalisant je dirais cette démarche. Le meilleur exemple qu'on a eu récemment, c'est Madame Isabelle Schnabel, qui était à Jackson Hole. Alors, on a beaucoup commenté le discours de Monsieur Powell à Jackson Hole, un discours très dur, où il annonce la douleur pour les ménages et pour les entreprises. Mais le discours de Madame Schnabel était tout à fait dans la même ligne. Elle parlait pas de douleur, elle parlait de sacrifice, je sais pas ce qui est mieux. Mais enfin, ce qui est clair au bout du compte, c'est que aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne est totalement focalisée sur son objectif d'inflation, laisse de côté, je dirais, les effets de bord, les dégâts collatéraux que ça peut avoir sur l'économie, et donc tout à fait prête à accepter qu'il y ait une récession. Peut-être que c'est par là qu'il faut en passer pour apaiser les tensions de prix. Donc je pense que c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut lire aujourd'hui la BCE. Après, 50 centimes, 75 centimes, je dirais que c'est presque anecdotique par rapport à ce changement de cadre d'analytique. Pour ce qui me concerne, je pense qu'on va plutôt aller vers 75 centimes. Voilà.
Et est-ce que, bon, juste scénario, la Banque Centrale Européenne relève effectivement de 75 points de base, et derrière, entre guillemets, et on le voit ce matin, hein, l'euro continue sa chute, c'est quoi? C'est une perte de crédibilité?
Bon, je crois pas. Je crois que c'est ça price le risque de récession qui est accru. Je crois que c'est vraiment ça, hein, parce que finalement, sur la période la plus récente, je dirais que la Banque Centrale Européenne est en train de monter ses taux quasiment au même rythme que la Fed. Bon, mettons qu'il fasse 75 centimes au mois de septembre, puis encore deux réunions d'ici de la fin de l'année avec 50 centimes à chaque fois, c'est à peu près ce qu'on attend de la Fed. Mais bon, en ce qui concerne la balance des risques économiques, le risque de récession, l'exposition à la crise énergétique, il est tout à fait clair que la zone euro est beaucoup plus mal positionnée que les États-Unis. Je pense que c'est cela que reflète aujourd'hui l'euro.
Merci beaucoup Bruno Cavalier, l'analyse macroéconomique d'Odo BHF qui nous accompagne ce matin. Les marchés qui sont un petit peu malmenés avec ces incertitudes énergétiques, le CAC menace les 6000 points, 6026 points, on verra ce qu'en pense nos traders d'ici une douzaine de minutes. Le CAC perd 2,27%, l'eurodoll à 99,25.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marc Cœur de Roi.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Ludovic de Jouvencourt. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, fondateur de Prélo. Qu'est-ce que c'est Prélo?
Prélo, c'est une start-up de l'immobilier qui permet de démocratiser l'accès à la propriété d'une résidence secondaire. On s'est lancé il y a maintenant tout juste un an. C'était en août dernier. Et notre objectif, c'est donc de trouver des biens, les rénover, les meubler et rassembler entre 2 et 8 personnes pour faire l'acquisition de ce bien. Au final, ils se partagent le bien et sa valeur, mais également l'intégralité des frais. Une fois propriétaires, ils ont un calendrier de réservation qui leur permet de réserver leurs vacances et leurs week-ends.
C'est du timeshare, quoi.
Pas du tout.
Presque, mais non.
Presque, mais pas.
Non. On se différencie du timeshare à plusieurs égards. Déjà, on rassemble maximum 8 personnes au sein d'un bien. Donc une part donne accès à 44 nuitées calendaires et une personne peut acheter jusqu'à 4 parts d'un même bien. Donc on peut avoir la moitié de la propriété. Le calendrier est complètement dynamique. Donc un été, on peut partir en vacances en juillet, peut-être l'été suivant en août. Et les vacances se réservent au fur et à mesure. Ce sont les grandes différenciations qu'on va avoir avec le timeshare.
Mais c'est quand même l'enfer. Enfin, au départ, non mais forcément, je vais me faire l'avocate du diable. C'est-à-dire que me retrouver coincé parce qu'on a tous les mêmes préoccupation. Je veux dire, pour peu qu'on ait des enfants, bah, les vacances, c'est effectivement juillet-août. La plupart du temps, c'est août parce qu'on a des employeurs qui nous forcent, en fonction de notre travail, à prendre les vacances en août. Comment ça se passe? Comment c'est... Enfin, parce que là, pour le coup, ça peut être la guerre. C'est quoi? Premier arrivé, premier servi? Ça se passe
non, en fait, on a mis en place plusieurs mécanismes qui permettent de garantir à nos clients d'avoir satisfaction sur la réservation de leurs vacances. Tout d'abord, en fait, une part, effectivement, c'est 44 nuitées calendaires, mais ça donne une semaine haute saison garantie. Donc, en été, par exemple, sur un bien qui est situé en bord de mer, on a forcément une semaine entre juillet et août. Donc, si une personne nous dit, moi, je veux absolument partir 4 semaines tous les étés, on sait d'ores et déjà que cette personne doit acheter la moitié de la propriété. Ensuite, on travaille la complémentarité de nos clients au sein d'un même bien. Donc on va faire en sorte de rassembler des personnes qui ont des besoins complémentaires. Et typiquement, des retraités qui sont attachés plus à la basse saison avec des familles d'actifs qui ont peut-être des vacances imposées, comme vous venez de le dire.
Et du coup, alors moi c'est la question, c'est l'aspect pratico-pratique, au-delà du dispatch des jours, etc. Comment ça se passe? C'est-à-dire, je vais sur votre site et je vois une maison qui m'intéresse, ou il faut d'abord que moi j'ai une maison en tête, que je vous la suggère? Comment ça se passe, en fait?
Alors, en fait... Effectivement, notre site permet de mettre en avant les propriétés qui sont disponibles à la vente. En revanche, c'est pas du e-commerce. On va pas pouvoir vendre un bien de cette façon-là. On a besoin que vous preniez contact avec un de nos conseillers. Il va étudier votre situation patrimoniale, la façon dont vous allez consommer vos vacances, vos besoins, etc. Et à partir de là, ce conseiller va être capable de vous faire les meilleures recommandations pour votre bien. Et un des points éléments en termes de recommandations, c'est la bonne gestion de son budget. Typiquement, on se rend compte qu'un futur propriétaire de résidence secondaire n'est pas du tout au courant de ce que va lui coûter sa résidence secondaire.
Oui, on a toujours tendance à dire que c'est un gouffre financier, vous validez ça ?
Ça peut l'être si on fait un choix d'acquisition non éclairé. Et c'est pour ça que notre métier, c'est de faire en sorte que on vous éclaire de la meilleure des façons sur le choix de votre propriété. Et ça va jouer sur la taille du jardin. On a tendance à oublier que très souvent, si on a un grand jardin, c'est des frais de jardinage.
Il va falloir le tondre.
Et très souvent, les gens nous demandent un grand jardin pour voir les enfants gambader dans le jardin. Ouais. Mais faut faire des choix éclairés.
Pareil, la piscine.
La piscine et également la taxe d'habitation. On l'a vu récemment, maintenant la taxe d'habitation ne s'applique plus sur résidence principale pour 80% des foyers et bientôt 100% en 2023. Ouais. En revanche, il y a une majoration sur la taxe d'habitation des résidences secondaires et ça peut varier de 1 pour 10 selon l'endroit où on achète sa résidence
plus
secondaire.
Plus taxe foncière en plus.
Exactement.
Et ça, du coup, c'est dispatché de manière équivalente entre les différents propriétaires?
Exactement. Donc c'est divisé par 8 et si on a un huitième, on paye un huitième de la taxe foncière à la taxe d'habitation. Si on a 2/8, on paye.
Et c'est pareil pour le gazon, il se partage en fonction de la. C'est comment ça se passe?
Non, parce qu'au mois de février, ça ne pousse pas.
Non, pardon, je suis désolée. Moi, non, dans mon petit appartement parisien de locataire.
Mais c'est exactement comme ça que ça marche. En fait, on va accumuler et on va payer l'intégralité des frais de la gestion de la propriété. Et selon sa quote-part, on va avoir un
appel
de charge.
Donc c'est vous qui assurez, en fait, aussi l'entretien?
Tout à fait. En fait, on s'occupe de l'intégralité de la conciergerie du bien. Donc ça va évidemment du ménage entre les copropriétaires pour vraiment avoir un standing qualitatif et qu'on n'ait pas besoin de faire le ménage de son précédent propriétaire quand on arrive dans son bien pour ses vacances, le jardinage et évidemment la location saisonnière des nuitées non occupées.
Alors, parce que vous essayez de rentabiliser la résidence secondaire, vous faites comment alors?
Tout à fait. En fait, on est convaincu que cette classe d'actifs permet de trouver un juste équilibre entre plaisir et rentabilité. Et donc, quand une personne est dans son bien, elle prend beaucoup de plaisir, mais quand elle n'y est pas, et si elle ne va pas consommer l'intégralité de sa quote-part, nous, on prend la main sur le calendrier pour le louer en location saisonnière et faire en sorte que cette personne génère un revenu locatif sur ses nuitées.
Alors, ça veut dire quoi? Par exemple, on est tous les trois, là, à cette table, copropriétaires de notre résidence secondaire. Ouais, et moi, qui prends trop peu de vacances, décide de ne pas profiter de mes 44 nuitées. Ouais. Vous allez mettre à la location saisonnière le bien pendant les jours qui me sont traditionnellement réservés. Et il n'y a que moi seul qui en touche les bénéfices, ou on se les répartit entre les différents propriétaires?
Alors, c'est un tout petit peu plus complexe que ça pour essayer de maximiser le rendement qu'on va être, capable de sortir du bien. En fait, systématiquement, à l'approche d'une date, on va ouvrir le calendrier sur les plateformes de location saisonnière à un prix volontairement très haut. Ce qui fait que si à ce moment-là, très en avance, quelqu'un réserve, le prix est tellement haut qu'en fait, c'est intéressant pour les copropriétaires d'avoir loué. Et à l'approche de cette nuitée, on va le baisser pour favoriser le fait de remplir cette nuitée. Si personne des propriétaires ne l'a réservée, ben on veut être certain qu'elle ne soit pas vide. Et à la fin de l'année, on va redistribuer les revenus à hauteur de la non-consommation de chacun des copropriétaires.
D'accord, donc celui qui a le moins consommé, c'est celui qui percevra le plus de
revenus locatifs.
Et il se peut que Cédric puisse s'y opposer dans notre super logement résidence secondaire. Il peut me dire, ben moi j'ai pas envie qu'on le loue.
Alors il ne peut pas le faire au global sur le bien ? Parce qu'en fait, ça fait partie de notre proposition de valeur. En revanche, il peut tout à fait dire, moi, je ne veux pas qu'on loue mes nuitées. Et pour ça, on l'accompagne dans le fait de pré-réserver ses nuitées qui seront vides. Je suis pas certain que la logique soit très bonne.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on va lui expliquer l'intérêt de le faire et de montrer que, en fait, on peut avoir des vacances géniales en ayant son crédit complètement payé par la location saisonnière. Mais aujourd'hui, on a personne qui nous a demandé de ne pas le faire.
Mais si, enfin, forcément, je suis obligée de vous poser la question, est-ce que ça vaut pas plus le coup de louer ponctuellement pendant ses vacances plutôt que de s'engager dans un système qui a l'air quand même assez complexe comme ça ?
Ben, en vrai, non. Pourquoi ? Parce
qu'il y a le clou où on peut mettre sa décoration.
C'est ça. Et encore même pas, je pense pas.
Non, on ne peut pas faire ça.
Ah, tu vois ?
On est garant du standard de qualité du bien et faire en sorte que tout le monde ne vienne pas avec son petit tableau. Nous, on a des architectes d'intérieur qui permettent de restituer des biens qui sont très qualitatifs et adaptés à
tout le monde.
À des moments
de vie
de vacances.
Mais du coup, vous avez calculé que c'était quand même plus intéressant financièrement de faire ça plutôt que de louer ponctuellement ?
Forcément, parce qu'en fait, quand vous louez vos vacances et vous louez un bien en Airbnb ou à l'hôtel, y a une part de votre location qui va venir annuler une mensualité de crédit chez cette personne. On propose de faire exactement la même chose. Et ce qui fait que quand on se rend compte que nos clients sont majoritairement des familles avec des enfants, ouais, et que quand on a des enfants, on joue la sécurité en vacances, on va très souvent au même endroit.
Ouais.
Si on va au même endroit dans notre bien et qu'en plus, quand on n'est pas là, ça nous rapporte de l'argent, croyez-moi, c'est plus intéressant que de louer vos vacances.
Mais si pendant X années, je vais sur la côte,
oui,
et que finalement j'ai envie d'aller au Pays Basque, d'aller en Bretagne, je me retrouve coincé sur la côte là. Vous n'avez pas de proposition, c'est là où on se démarque encore du timeshare. C'est-à-dire que on peut pas dire tiens, cette année j'ai envie d'aller, je veux aller en vacances à La Rochelle, quoi.
Alors vous avez plusieurs possibilités pour le faire. D'abord, le fait de que nous puissions louer vos nuitées, et ça peut être l'intégralité de vos 44 nuitées de votre part, fait que vous avez un revenu locatif, et ce revenu locatif, vous pouvez l'injecter dans vos locations où vous voulez aller. Ensuite,
par contre, on ne peut pas s'adresser à vous en vous disant, tiens, dans vos propriétés prélo, vous n'auriez pas...
C'est quelque chose qu'on est en train de lancer.
Ah ouais.
Il faut pas couper l'herbe sous le pied. Là. Attends deux secondes.
Moi, je suis jardinier.
Aucune patience. Et juste pour savoir, quand je veux partir, quand je veux arrêter, c'est simple.
En fait, nous, on a une offre de rachat garantie. Donc, vous avez déjà la possibilité de le vendre. Vous pouvez le revendre sur le marché classique. Mais nous aussi, on vous rachète votre part. Vous avez la possibilité de la revendre uniquement à partir de 12 mois de possession.
Ouais.
Pour éviter tout mécanisme de spéculation. Et ensuite, nous, on peut vous racheter votre bien ou vous pouvez retrouver un acquéreur pour aller faire un autre projet.
Okay.
Ça s'appelle Prélo et c'était Ludovic de Jouvencourt. Merci.
Merci à vous.
De repasser nous voir. À demain, Marie.
Non, je repars en vacances, là, du coup.
Bon, et bonnes vacances. J'aurais pu dire bon débarras.
Oh, mais qui
moins de 18 pour le CAC 40. 6032 points. Qu'en disent nos traders ? On va leur demander dans un instant. Andrea Twenny, Jean-Louis Cussac. Et puis, vous n'oubliez pas les replays qui vous permettent de retrouver Marie régulièrement. C'est sur nos plateformes partenaires ou sur notre site.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque jour à 10h30, deux traders se mettent à votre disposition pour lire graphiquement le marché. Jean-Louis Cussac, depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et Andrea Twenny, depuis Saxo Bank.
Bonjour.
Bonjour Andrea. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Andrea,
bonjour.
On a l'impression que le marché a bien l'intention de menacer ou de tester les 6000 points. Quel est votre ressenti ?
Oui, en effet, on a un début de semaine assez lourd. Hein. L'ambiance est compliquée, on va dire, sur les marchés, toujours sur fond de crise énergétique. Alors, on a eu des nouvelles négatives en fin de journée, vendredi, sur Nord Stream 1, donc qui a été de nouveau coupé. Donc, le gaz qui est de nouveau un sujet très problématique en Europe. Et du coup, voilà, cette crise énergétique qui nous pend au nez et qui du coup crée, on va dire, cette tension sur le marché. Ça peut avoir des répercussions évidemment sur les prix énergétiques et donc du coup sur l'inflation et donc par ricochet sur un risque de récession en Europe. Et donc du coup voilà, il y a énormément d'inquiétudes autour du gaz et des livraisons de gaz du coup par la Russie. Et c'est vrai que cette nouvelle vendredi a complètement fait basculer, on va dire, les marchés dans quelque chose de plus négatif. On avait pourtant connu vendredi une séance plutôt positive, et puis derrière on l'a vu notamment aux États-Unis où on a complètement basculé dans le rouge. Et puis ce matin en Europe, c'est très clair et c'est assez net sur notamment le CAC qui perd plus de 2%. Donc on pourrait revenir en effet tester les 6000 points. Au-delà, on a une zone autour des 5945 à peu près. Ça peut glisser jusqu'à 5925. Donc ça, c'est les niveaux à surveiller sur le CAC, mais on sent, voilà, dans tous les cas, la dynamique, elle va tourner, on va dire, autour de l'énergie. On aura d'ailleurs un sommet européen sur l'énergie en fin de semaine, vendredi, pour justement prendre des mesures et des décisions pour contrer, on va dire, un petit peu ces effets négatifs des prix énergétiques. Donc on verra quelles solutions vont être apportées par les différents pays européens, ou en tout cas, quelles décisions vont être prises par l'Europe pour contrer, on va dire, ces effets négatifs des prix énergétiques. Mais on sait qu'en ce moment, c'est vraiment un sujet assez central, l'énergie et notamment le gaz. Et les prix de l'énergie du coup en Europe, et ça risque de pénaliser, on va dire, les marchés de manière un petit peu plus importante. On attend toujours bien sûr des décisions des banques centrales. On aura la Banque centrale européenne d'ailleurs, mais on voit aussi qu'économiquement les indicateurs sont assez négatifs aussi. On a eu encore la version définitive des PMI des services en Europe avec une contraction. Donc les mauvaises nouvelles, on va dire, s'accumulent un petit peu sur le marché. Alors on a toujours cette capacité et cet espoir de rebond et de se maintenir, mais en tout cas c'est vrai que sur la séance d'aujourd'hui, avec cette perte de plus de 2% assez rapide dès les premiers échanges, ça n'augure, on va dire, rien de bon. Il faudra faire attention éventuellement à cette cassure des 6000, mais surtout à un retour sous la zone 6000, on va dire 6925, 6945, qui pourrait être encore une fois un nouveau signe négatif envoyé par le marché. Attention aujourd'hui, alors les futurs américains sont ouverts, mais sinon le cash restera fermé. C'est un jour férié aux États-Unis, donc les volumes devraient être quand même un petit peu plus faibles et l'influence de Wall Street un peu moins importante. Mais donc du coup, voilà, à suivre les nouvelles qu'on aura sur cette partie énergétique, qui semble aujourd'hui vraiment dicter la tendance sur les marchés. On le sent déjà depuis plusieurs séances.
Jean-Louis Cussac, comment voyez-vous les choses chez Perceval ?
Alors moi, ce que j'observe, c'est que les 6000, oui, bien sûr, mais on les a déjà atteints à 8h du matin. On a eu des stops qui ont été déclenchés. On est allé chercher 5975 sur le futur. Une seconde avant, nous étions à 6040 et quelques. Et donc le marché, si vous voulez, il est extrêmement nerveux. Et surtout peu dense. Bon, à 8h, c'est un peu normal qu'il soit peu dense. Là, il y a une résilience quand même assez extraordinaire, je trouve. On a vendredi, ce mouvement, il est mortel, vous rendez compte. On part de 6010, 6020 dans la journée, 6050, et puis on explose à 6180, on revient comme ça le soir à 22h tout en bas, avec peut-être amplifié aussi par les options hebdomadaires américaines. Les marchés américains, si vous voulez, c'est un processus classique, avec quand il y a un mouvement, il faut aller protéger les options. Donc ça amplifie, si vous voulez, les écarts. Encore une fois, faut pas trop se faire mystifier par ce genre de mouvement. La preuve en est que ce matin, on tient. Donc moi, si vous voulez, je garde un sens prioritairement baissier, mais pour autant, je ne fais pas le pari qu'on va s'effondrer, enfin qu'on va baisser fortement. Il y a une zone de résistance vraiment très facilement support, très facilement identifiable. 6000, ça tient jusqu'à 5008. Alors évidemment, si on casse vraiment cette zone des 6000, on peut aller chercher des 5008, mais si vous voulez, ça fait pas partie du scénario principal. Moi, ce que je trouve, c'est que ce marché, il reste dans la méfiance. Il y a zéro complaisance. Alors maintenant, il y a une confusion extrêmement importante, bien évidemment. Il y a pas de gaz, il y a du gaz, il y a pas de gaz. Alors, est-ce que c'est organisé ? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a une très très grande confusion sur les statistiques économiques. Bon, ben là également, il y a des interprétations diverses et variées. On est loin d'un niveau à partir duquel la situation pourrait s'améliorer, parce qu'on pourrait considérer 6320, même si avant il y a déjà 6002 peut-être pour neutraliser. Mais moi, si vous voulez, je vends. Alors ce matin, on a proposé 6057, on est à nouveau positionné dessus, pourquoi pas. On a pu faire déjà un écart. Et sur l'euro-dollar, c'est la même chose. Je vends l'euro-dollar. Ce matin, on a proposé 0,9923, c'est pas le plus haut, mais bon, c'est pas mal. Et puis on a rebaissé, on monte, bon, mais on reste baissier également sur l'euro-dollar. En fait, il y a des inquiétudes extrêmement marquée sur la zone euro, par rapport aux États-Unis. Il y en a un peu moins, peut-être, on dirait. Pourtant, la fragilité du marché américain avec ces GAFAM est importante, avec les taux qui montent, etc. Mais bon, c'est l'Europe qui reste dans le collimateur pour l'instant, avec un euro-dollar qui, évidemment, reste extrêmement faible.
Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, et André Atouini chez Saxo Bank, que l'on retrouve tout à l'heure à 11h30 pour suivre cette séance. Et on vous remercie, Andrea, d'être présent au rendez-vous. Le marché parisien, donc ce matin, pas si loin des 6000 points, 6045 points, moins 1,97%.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Bonjour Nicolas Dose.
Bonjour.
Un système de bouclier sera maintenu en 2023, déclaration de Gabriel Attal. C'était sur France Inter ce week-end. Comment faut-il comprendre les propos du ministre délégué aux comptes publics ?
Il faut comprendre que l'État sera là pour freiner la hausse des prix de l'énergie, mais sans doute pas dans la version actuelle des dispositifs qu'on a mis en place, donc gaz, électricité. Actuellement, on a donc un bouclier tarifaire, mais qui a presque un an et qui va s'achever fin décembre. Plafonnement des prix du gaz, limitation à plus 4% pour la hausse des prix de l'électricité, puis à côté du bouclier tarifaire, on a quand même ajouté, ça concerne l'énergie, mais c'est pas dans le bouclier, la subvention en avril pour les litres de carburant. Et on est passé à 30 centimes au 1er septembre, contre 18 centimes depuis le 1er avril. Au passage, d'ailleurs, cette hausse de 18 à 30 centimes a été installée uniquement pour des raisons politiques. Uniquement pour des raisons politiques, pas pour des raisons de pouvoir d'achat. Mmh. Il fallait absolument avoir le vote des LR au Parlement cet été, et c'était la condition pour que les LR votent oui. Donc ça veut dire qu'un bouclier tarifaire, eh ben, l'État sera là, il freinera les hausses, mais il y aura des hausses. Les prix vont monter en janvier 2023. Moins probablement qu'ils ne devraient s'il n'y avait pas d'intervention publique, mais ils vont monter.
Donc hausse des prix, pas pilotée, mais maîtrisée par Bercy.
C'est l'idée. Alors, on pose la question à Gabriel Attal dans les colonnes du Parisien hier. Il dit on va pas faire du plus 40% comme les Allemands. Mais plus 10 ou plus 20%, c'est possible. Et en fait, c'est exactement le message qui est distillé depuis quelques jours par le gouvernement. Bruno Le Maire, c'était mercredi dernier, dit il y aura une hausse des prix de l'énergie début 2023, mais elle sera contenu et raisonnable. C'est exactement les mêmes termes qu'il a réutilisés devant la presse économique. Il nous a réunis à une soixantaine, c'était jeudi dernier. Alors c'était du off, mais en l'occurrence, les propos avaient été tenus le matin même dans les colonnes des Échos. Il a dit, contenu et raisonnable. On n'a pas de détails supplémentaires, et Elisabeth Borne, lundi dernier, a dit à peu près la même chose, puisqu'elle a dit, nous amortirons les hausses. Nous n'allons pas laisser les prix exploser. Donc oui, les prix vont monter. L'objectif du gouvernement, il est toujours le même, freiner l'inflation pour préserver le pouvoir d'achat des ménages, très bien. Freiner l'inflation aussi pour préserver les dépenses publiques et les finances publiques, parce que moins il y a d'inflation, moins il y a d'indexation de toutes les prestations qui sont automatiquement revalorisées avec l'inflation. Je pense aux retraites, je pense aux minima sociaux aussi. Et puis, c'est aussi le fait de contenir l'inflation, parce qu'objectivement, l'inflation en France est la moins élevée d'Europe, grâce aux milliards mis en place par le gouvernement. C'est une manière aussi de freiner les emballements salariaux, notamment la hausse du SMIC, qui est indexée sur l'inflation. Si on avait une inflation proche de celle de l'Allemagne, voire d'autres pays qui sont à 10%, voire au-delà de 10%, il y a un moment où la fameuse boucle au prix salaire, elle finit par s'engager. Oui. Quand on arrive à rester dans les 5-6, on peut considérer qu'on peut tenir le coup sur cette boucle prix salaire. Si on arrive à 10%, on pourra pas. Et là, à ce moment-là, ce sera de la vraie inflation. On peut considérer avec un regard un peu cynique que cette politique d'amortissement des coûts de l'énergie s'apparente d'une certaine manière à une politique de compétitivité, puisqu'en évitant l'emballement des prix avec les salaires, eh bien, on préserve un peu les entreprises et donc on préserve le tissu productif. Et ça semble un peu paradoxal, mais ça fait partie des éléments qu'il faut avoir en tête.
Du coup, il ressemblerait à quoi le bouclier version 2023 ?
Il y a deux grandes solutions. Pour trouver 25 000 des solutions, mais il y a deux grandes solutions. Soit, effectivement, on a quelque chose qui s'apparente un peu à ce que nous avons aujourd'hui, mais qui est moins protecteur. C'est très coûteux actuellement. Et surtout, c'est totalement universel. Que ce soit pour le gaz, pour l'électricité ou pour les carburants, absolument 100% de la population en bénéficie, y compris ceux qui peuvent se permettre de se payer plus cher de l'essence ou plus cher de l'électricité. Et puis sinon, l'autre grande solution, c'est qu'on arrête les plafonnements, on arrête les subventions. Donc tout d'un coup, soudainement d'ailleurs, vous avez le signal prix qui s'exprime, le fameux signal prix propre à changer des comportements, car sinon vous n'aurez pas de changement de comportement s'il n'y a pas de signal prix. Et puis vous décidez dans la foulée, le 1er janvier, de mettre en place une aide financière directe pour les 40 ou 50% ménages les plus pauvres, quelque chose qui s'apparenterait à peu près au chèque énergie, hein, ça existe le chèque énergie, il avait été rehaussé il y a maintenant un an à 200 euros, et ça bénéficiait à 6 millions de ménages. On peut très bien imaginer qu'il y a une aide directe qui est versée à 6 millions, peut-être 8 millions de ménages français, une aide en cash versée par l'État, totalement non affectée. Hein. On ne dit pas aux gens c'est pour acheter du carburant ou c'est pour acheter des fournitures éco-responsables ou c'est pour acheter des produits bio. Ça peut être ça l'autre grande solution. Après, il y aura un débat parlementaire qui va s'installer. Alors, on va voir arriver ceux qui veulent absolument des baisses de taxes, notamment des baisses de TVA. Ça, c'est plutôt du côté du Rassemblement National. Ceux qui veulent absolument des blocages de prix. Blocage de prix, c'était plutôt quelque chose qui est défendu par le camp La France Insoumise. Et puis, on va avoir le débat sur la taxation des super profits des groupes d'énergie qui va évidemment alimenter les débats. Il y a un sujet là qui se pose en Allemagne où l'Allemagne vient d'annoncer qu'elle avait l'intention de soutenir l'idée d'une contribution des entreprises qui ont généré des gains fortuits. Les gains fortuits, c'est un terme utilisé par Christian Lindner, qui est le ministre des Finances et de l'Économie en Allemagne. On va voir comment ça va se passer en Allemagne, mais visiblement, à écouter le Christian Lindner, ce ne sera pas de la fiscalité. Donc on va voir un peu comment est-ce qu'ils vont mettre en place le fait de faire participer une partie des entreprises qui bénéficient de l'inflation au nouveau plan de relance de 65 milliards.
Vous voulez dire qu'ils vont s'inspirer de ce qu'on a fait chez EDF, aller piquer dans la caisse?
C'est-à-dire que ça pourrait être quelque chose comme ça. On pourrait avoir quelque chose comme ça où il y aurait une contribution obligatoire, mais d'une manière particulière pour certaines entreprises. Nous, on a toujours, en tout cas, nos problèmes techniques. Si on décidait de taxer quelques entreprises, bon, il y en a trois, hein, Engie, Total Energy, CMA, CGM. La plupart font des profits hors de France. Je rappelle que Total, en 2021, était dans le rouge quand même en France. Donc, c'est compliqué d'aller taxer une entreprise qui ne réalise pas des profits sur le territoire. Et puis, c'est anticonstitutionnel de décider qu'on va cibler une, deux, trois entreprises. Évidemment, ça ne passe pas parce qu'il y a une rupture d'égalité devant l'impôt. Voilà. On va avoir le débat. Ça fera partie des éléments qui vont nourrir la réflexion sur cet après-bouclier tarifaire 2021-2022.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le CAC 40 est en baisse d'un 85% ce matin. On est à 6053 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et comme une fois par mois, Christian Fontaine et Stéphane Van Uffel sont en plateau. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Christian pour Le Revenu, Stéphane Van Uffel pour netinvestissement.fr. Et ce matin, tous les deux, vous nous proposez les bons plans de la rentrée en termes de placement. Christian, quelles sont les nouveautés et les opportunités de cette période de rentrée ?
Alors d'abord, vous avez prononcé effectivement deux noms magiques, mais pour bien placer son argent, il faut tenir
Stéphane
compte des dernières nouveautés. On pensait à nouveautés et changements.
Ah pardon, excusez-moi.
Alors les nouveautés pour vos placements, bon ben ça c'est sans surprise, c'est bien sûr l'accélération de l'inflation, hein, même si le chiffre a légèrement baissé au mois d'août, plus 5,8% sur 12 mois contre plus 6,1% en juillet. Il n'empêche que l'accélération de la hausse des prix rend peu ou prou obsolète tous les placements haïs historiquement par notre ami Stéphane Van Uffel, mais soutenu quand même de temps en temps par Le Revenu, à savoir les livrets d'épargne, l'épargne logement et puis dans une moindre mesure l'assurance vie en euros. Autre nouveauté, c'est bien sûr l'accélération de la hausse des taux d'intérêt, des taux des prêts immobiliers, plus 0,20% cet été. Il faut savoir que l'emprunt, si vous empruntez sur 20 ans, le taux a doublé depuis le mois de janvier. Enfin, last but not least, c'est bien sûr le package des mesure d'urgence qui a été en faveur du pouvoir d'achat, qui a été adoptée cet été par le gouvernement. Et certaines de ces mesures concernent l'épargne et votre argent.
Voilà donc un premier regard. C'est vrai qu'il y a des taux réels qui sont plutôt au plancher pour les placements sans risque. Et du coup, des temps qui restent quand même assez difficiles pour les épargnants, non ?
C'est-à-dire que là, on est dans une situation qui est délicate. Parce que d'un côté, vous avez toujours trois types de clients. Vous avez le client qui veut protéger son capital. Et là, avec une inflation à 5,8 lissée à partir du mois d'août, forcément, là, votre protection de capital, certes, elle existe. Mais plus vous allez avancer dans le temps, plus va s'éroder quand même le capital que vous cherchez à protéger, quoi qu'il arrive. Ensuite, vous avez les clients qui ont envie de faire du gain, mais qui veulent garder un équilibre entre gain et risque. Et souvent, on en parlait avec Christian, c'est le fameux 80-20, 70-30 du contrat d'assurance vie, où je me permets d'aller chercher un peu plus de rentabilité tout en sécurisant une grande part de mon capital. Mais là aussi, le rendement moyen d'un montage comme ça en 80-20, il reste encore aujourd'hui sur des couloirs de performance qui vont pas tellement exploser au-dessus de 5,8 si vous voulez maintenir un bon équilibre. Donc même cette deuxième catégorie de Français, en ce moment, ça pique un peu. Et même celui qui est très dynamique et qui veut aller chercher beaucoup de rendement et qui est prêt à prendre des risques, bah évidemment, le contexte inflationniste met à mal quand même des grands pans de l'économie et c'est difficile de se positionner également. Donc là, on est quand même dans une rentrée où bah c'est bien qu'on parle un peu des bons plans et aussi des bons réflexes parce que c'est compliqué de se positionner pour son bon ratio risque-rendement en septembre 2022.
Malgré tout, il y a au centre de tout cela les questions de taux, les questions de banque centrale. Et on a l'impression que tous les épargnants avaient à peu près intégré qu'on pouvait s'appuyer, suivre nos banques centrales. Et là, on a chez les uns, chez les autres, des doutes sur la crédibilité des banques centrales qui ont peut-être tarder à reconnaître la réalité de l'inflation, etc. Et là, on s'interroge notamment sur la Banque Centrale Européenne, en se disant, elle va peut-être remettre 75 points de base, et pour autant, si le lendemain, l'euro continue de baisser, qu'est-ce qu'il en sera ? Est-ce que vous avez, avant d'évoquer un petit peu les placements à privilégier, est-ce que dans toute cette réflexion, la crédibilité des banques centrales change la donne pour un épargnant ? Alors, où est-ce qu'on est ?
On est un peu haut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, le contexte est difficile. Les taux sont l'un des éléments clés avec l'inflation. Donc, effectivement, in fine, la politique des banques centrales. In fine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour autant, cet été, tout n'a pas changé et il reste un certain nombre de bons plans. Alors, vous parliez des taux, justement. Les taux, c'est essentiel. On parlait tout à l'heure en disant que les taux d'intérêt des prêts à l'habitat avaient augmenté. C'est vrai. Mais les taux réels, c'est-à-dire déduction faite de l'inflation, restent excessivement bas, voire n'ont jamais été aussi bas. Donc aujourd'hui, c'est un lien direct avec les politiques des banques centrales, et ça va rester, quelle que soit l'évolution de ces politiques, il reste intéressant d'emprunter aujourd'hui. Même si votre salaire ou si les loyers ne progressent pas comme l'inflation, ils vont progresser, et donc peu ou prou, le poids de vos mensualités de prêts dans l'ensemble de votre budget va se réduire avec les années. Donc en cette période, quelle que soit la politique des banques centrales, quel que soit le différentiel entre les deux côtés de l'Atlantique, cela reste intéressant de s'endetter, cela reste intéressant d'emprunter. On ne le dit pas assez, mais en période d'inflation, ce sont les emprunteurs qui sont gagnants. Donc aujourd'hui, quelle que soit votre situation personnelle, il ne faut pas hésiter à s'endetter. C'est un élément clé.
Stéphane, votre sentiment sur cette relation, entre guillemets, de confiance qu'il y avait entre les épargnants et les banques centrales.
Beaucoup des épargnants, alors en tout cas on essaie de faire un peu de pédagogie chez Net Investissement avec nos clients, et nos clients sont des clients de gestion de patrimoine, donc forcément s'ils viennent d'un côté sur internet et qu'ils veulent faire de la gestion de patrimoine, on va dire que ce ne sont pas des profanes complets, ils sont un petit peu intéressés par tout ça. L'analyse, elle est que, encore, on pourrait avoir une heure, hein, Cédric, c'est très complexe parce que cette inflation, elle n'est pas que nationale, elle n'est même pas que continentale sur l'européen, et ça n'est pas simplement un emballement des économies avec des hausses de prix qui suivraient finalement une ultra-croissance qui fait que la Banque Centrale devrait monter ses taux pour freiner tout ce qu'elle a injecté comme fonds. Là, on a aussi quand même une inflation qui est due à des carences de matières premières, à des éléments exogènes géopolitiques qui viennent s'appuyer encore sur la... Donc on n'est pas simplement sur une inflation qui est due à des taux bancaires centraux trop bas parce qu'un quantitative easing encore, et puis on le réglerait facilement en montant de 0,25, 0,50 ou 0,75, et l'épargnant à ce moment-là verrait un équilibre se faire tranquillement entre son pouvoir d'achat et la rémunération de ses livrets ou des fonds euros d'assurance vie qui sont basés sur ces taux directeurs. C'est pas le cas. Donc là, aujourd'hui, je partage l'avis de Christian. Je pense, en tout cas, je l'espère, que ce n'est que ponctuel. Donc en fait, quand on a des projets à long terme et emprunter en immobilier, c'est à long terme, profitons encore de la possibilité d'y aller.
Du coup, quel placement on privilégie ?
Alors, l'immobilier, c'est une option. Il y a un petit bon plan qu'il faut quand même dire, parce que c'est d'actualité. Vous allez avoir la possibilité de retirer jusqu'à 10 000 euros de votre épargne salariale sans passer par la case impôt. Bon, on attend encore les textes. Ça devrait être incessamment sous peu, même voir si la circulaire n'est pas déjà parue. Ce qu'il faut bien voir, c'est que il reste des bons plans, mais ils sont quand même un tout petit peu plus compliqués à débusquer. Donc, alors qu'il y a quelques années où l'assurance vie en euros était la réponse à toutes les problématiques patrimoniales, aujourd'hui, il faut un tout petit peu gratter. Je pense qu'en cette période, le mois de septembre, historiquement, c'est toujours la période des bonnes résolutions. Pour prendre des bonnes décisions en matière de placement, il faut disposer un minimum d'outils, des outils d'analyse et des outils de projection. C'est pas l'ingénieur patrimonial qu'est Stéphane qui dira le contraire. Donc ces outils, c'est lesquels ? C'est à la fois un budget et à la fois un état des lieux de vos actifs et de vos dettes. Au revenu, vous savez, on est très proche de nos lecteurs, on reçoit de nombreux courriels tous les jours, on va les voir chez eux, on les conseille. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque d'abord que vous avez toute une frange de la population qui malheureusement n'a pas les moyens de mettre de l'argent de côté. Mais ceux qui ont les moyens et qui épargnent, ben figurez-vous qu'ils ne savent pas combien ils épargnent. Ils ne savent pas non plus combien leur rapporte leur placement, en montant absolu ou en pourcentage, avant ou après impôt. Ils ne savent pas non plus quels sont, poste par poste, leurs principaux postes de dépenses, alors que c'est une donnée essentielle si on veut préparer sa retraite, pour anticiper son niveau de vie. Bon, donc en cette rentrée, tout simplement, il faut vous doter d'un budget, hein, sur un tableau Excel où vous listez l'ensemble de vos revenus, l'ensemble de vos dépenses. Alors, ça paraît très basique comme ça, mais c'est pas si simple. Vous allez arriver à la conclusion, imaginons que vous soyez en trésorerie négative. C'est-à-dire, en fait, sur l'ensemble de l'année, vous avez plus de dépenses que de revenus. Aïe, 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 vous allez pouvoir vous dire, j'ai des épargnés. Que nini, non. Si vous êtes en trésorerie négative, c'est peut-être parce que vous avez alimenté un plan d'épargne retraite. Donc attention, il faut distinguer la capacité d'épargne des flux de trésorerie, c'est des choses différentes. Il est absolument indispensable aussi de se doter d'un ce qu'on appelle un bilan de patrimoine, c'est-à-dire en fait une liste de l'ensemble de ses biens et de ses dettes. Pourquoi ? Ben parce qu'après ça, vous allez pouvoir, si vous classez l'ensemble de vos biens en grande famille de placements, les placements sans risque, les placements en actions, les liquidités, vous allez pouvoir déterminer la répartition de ces grandes familles de placements et voir si peu ou prou ça correspond avec vos objectifs patrimoniaux. La plupart des épargnants qui nous écoutent, ils vont s'apercevoir de quoi ? Ils vont s'apercevoir qu'ils ont beaucoup de liquidités et très peu d'actions. Et puis si en face, ceux qui ont entre 40 et 50 ans, leur principal objectif c'est la retraite. Bon, ils vont se rendre compte qu'ils ont ce qu'on appelle une allocation d'actifs ou une répartition ou des placements qui ne va pas pouvoir leur permettre de se doter d'un capital retraite digne de ce nom. Voilà. Donc, en cette rentrée, alors on pourra y venir après ça sur les placements à effet de levier, etc., tout ce qu'il faut jouer. Mais s'il y avait un seul message que le revenu voudrait faire passer, c'est dotez-vous d'outils, donc d'un budget, un budget mensuel, et un état des lieux de vos biens et de vos dettes. Et c'est deux outils indispensables pour prendre les bonnes décisions. À la rentrée de septembre, très souvent, on réalise des arbitrages dans la précipitation. Oui. Eh bien, au lieu de faire ça, et très souvent on le regrette, donc au lieu de faire ça, ben, mieux vaut d'abord se doter de ces outils et ensuite...
Un budget. Alors moi, je suis allé un Stéphane. Peu plus, je suis rentré un peu plus dans le concret, parce que moi, j'aime bien faire ça, et alors ça va pas vous surprendre. Souvent, dans ces moments-là, que ce soit en début d'année calendaire ou en début d'année scolaire, quand on nous demande les bons plans et ce qu'il faut faire, bah, je redis, parce que c'est ma nature et puis c'est l'essence même profonde de l'honnête investissement, il faut se tourner vers les innovations, parce que tout mouvement de marché, tout changement de situation économique, globale, structurelle, de taux, etc., fait que très rapidement, en quelques mois, les grands acteurs de la gestion de patrimoine, que ce soit de l'immobilier, du financier, etc., etc., s'adaptent. Bon, on va pas rentrer dans les produits structurés parce que j'aurais envie de vous dire, bah voilà, une solution fondamentale avant la fin de l'année, ce serait évidemment de structurer des produits qui vous protègent à la baisse et qui vous donnent des possibilités de gagner à la hausse avec du temps devant nous. Je vais pas non plus enfoncer la porte ouverte de la défiscalisation. On rentre dans les 4 derniers mois. Donc, si vous devez faire une défiscalisation Pinel, il vous reste un mois pour lancer les choses parce qu'après, avec le financement, ça va être long. Je parlerai de quelque chose, si vous me permettez. Vous connaissez les liens que j'ai avec le groupe Primonial et j'aime beaucoup. Ils ont sorti la deuxième enveloppe Primopact, et je voudrais en parler aujourd'hui parce que voilà typiquement un bon plan qui dans un contexte d'incertitude, de variation de taux, de volatilité sur les actions et les obligations n'ont pas encore repris le relais malgré la hausse des taux, et bien vous allez sur un produit Primopact, je le rappelle, c'est du private equity de qualité institutionnelle, c'est porté par Eurazeo qui va faire les investissements soit dans des fonds, soit en investissement direct, et le groupe Primonial va piloter ça avec Oradea au travers de son contrat d'assurance vie et de son PER. D'accord. Pour pouvoir offrir la liquidité. Donc vous avez diversification et bien sûr innovation, vers de financement de sens le plus responsable possible dans l'économie réelle de ce non-coté qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas forcément accès sur les marchés faciles quand on est un investisseur, mais qu'on connaît tous quand on va au supermarché, qu'on part en vacances ou qu'on monte dans une voiture. Et si vous alliez ce produit-là, bah vous avez une certaine liquidité parce que tous les deux mois, vous avez la possibilité d'avoir une VL qui vous permet de sortir et de rentrer dans un produit de private equity. C'est hyper innovant. Et vous avez un produit d'assurance vie qui vous permet en ce moment, alors vous n'allez pas aller choisir du 30%, hein, mais qui vous permet d'amortir profondément, selon les secteurs, ben voilà, cette crise géopolitique, ces inquiétudes de matières premières, ces inquiétudes sur l'inflation. Théoriquement, c'est typologie de genre d'enveloppe que moi, conseiller en gestion de patrimoine, j'aime. Avant, c'était beaucoup sur l'immobilier. Maintenant, on revient sur du private equity pour financer l'économie réelle rien de mieux, mon cher Cédric.
Stéphane Van Uffel et Christian Fontaine auscultaient les données de base de la gestion de patrimoine en cette période de rentrée. Merci à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure. Vous répondrez aux questions des auditeurs pour nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et puis, vous n'oubliez pas, bien évidemment, les podcasts qui vous permettent à tout moment de retrouver tout ou partie de l'émission. C'est sur le site ou sur nos plateformes partenaires. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.